Bonjour ou bonsoir, je ne sais jamais comment il faut dire à partir de 16h, donc en tout cas, merci d'avoir attendu jusque-là pour la fin de ces deux journées. Et par le hasard des calendriers, il se trouve que j'étais ce matin en train d'animer la première demi-journée d'une journée de réflexion du laboratoire Intelligence des mondes urbains, qui est le grand laboratoire d'excellence de Lyon consacré à l'urbain, sur le sujet suivant, est-ce que le concept de ville inclusive a du sens ? Et je leur ai parlé du Pollock et du fait que j'allais vous rencontrer en disant, mais finalement, en matière scolaire, je ne sais pas si ça a du sens, mais la question de l'école inclusive, en tout cas, moi, je l'entends souvent poser. Et je leur ai promis que je parlerai d'eux devant vous, donc je le fais. Mais ça montre sans aucun doute qu'il y a une actualité de ces sujets et que dans les mots que je vais dire, il y a un peu du directeur de l'IFE et peut-être beaucoup du géographe qui fait de ces questions de dynamique sociale urbaine un de ses sujets privilégiés de recherche depuis pas mal d'années. D'abord peut-être un mot sur le Pollock. Nous l'avons créé il y a 5 ans maintenant dans une perspective qui était à l'époque une perspective véritablement de développer une recherche que nous estimions trop faible autour des questions de politique éducative locale. Un certain nombre de personnes ici ont suivi l'aventure du Pollock depuis son premier jour. Je crois que nous avions raison à l'époque de faire ce constat d'un manque d'intérêt, peut-être tout simplement, n'ayons pas peur de le dire, de la recherche académique pour ces questions de localisation des politiques publiques en général ou en tout cas assurée pour cette question appliquée au champ scolaire. C'est d'ailleurs quelque chose qui me surprend en tant que directeur de l'Institut français d'éducation et n'étant pas du tout spécialiste du champ scolaire et de l'éducation, c'est de voir à quel point l'école est un champ social et politique, peut-être même un champ social total, qui finalement attire assez peu la recherche, trop peu par rapport à son importance dans le monde entier, en tout cas en France, hein, parce que dans d'autres pays, l'école est au centre, au contraire, des préoccupations, et que même du côté des acteurs politiques de premier plan, enfin, qui s'appellent comme cela, les acteurs politiques nationaux, on s'aperçoit que lorsqu'on parle d'école, on est souvent très rapidement emporté, sans doute par l'habitude, amené à tenir un discours extrêmement rudimentaire. J'allais dire un discours par slogan. On recycle des marronniers, hein, au sens de la presse, et alors finalement, ça arrive au débat que nous connaissons et qui, pour tous les gens qui s'intéressent d'un peu près à l'école, en tant qu'acteur ou en tant qu'observateur, sont des débats absolument éreintants, tellement ils sont indigents. Malheureusement, l'époque que nous traversons de primaire n'échappe pas vraiment à la règle. J'aurais même tendance à dire que ça en rajoute. Alors, je me réserve la possibilité d'avoir tort, puisque ce soir, il y a encore un débat télévisé, et puis toutes les primaires ne sont pas terminées, il y a encore d'autres primaires, mais pour l'instant, je suis frappé de voir que l'école reste du domaine du Yaka Faucon. Alors rétablir l'autorité à l'école pour les uns, rétablir l'accessibilité de l'école pour les autres, mais tout ça tient de la logique du slogan et finalement obscurcit la capacité collective d'observer réellement ce qui se passe. Donc le Pollock est un peu né de ça, hein, de cette idée qu'il n'y a pas suffisamment d'attention portée à cette question de la localisation des politiques scolaires et que pour arriver à surpasser cet état de fait, il fallait tenter d'améliorer la situation en partenariat avec des acteurs des politiques éducatives qui ne seraient pas les acteurs de l'institution scolaire en première intention, parce que les acteurs de l'institution scolaire, on a l'habitude de travailler avec eux, mais les acteurs hors de l'institution scolaire ou qui sont dans l'institution publique mais ne sont pas le ministère de l'Éducation nationale, pour aller vite, sont des acteurs qu'on rencontre trop peu souvent, alors même que depuis quelques décennies, ils sont de facto impliqués et de plus en plus dans des politiques scolaires locales, c'est-à-dire dans l'activation des politiques publiques nationales. parce qu'il y a aussi une sorte de condescendance par rapport au local qui est bien connue et que notre appareil d'État, mais je sais que les représentants de cet appareil ici ne sont pas avares de cette critique et que l'appareil d'État a tendance parfois à recycler à l'infini, c'est-à-dire ce qui est national c'est important et puis ensuite on est dans l'effectuation de ce qui se passe au plan national, c'est-à-dire on perd de vue qu'en se localisant, en changeant d'échelle, par ce jeu d'échelle, eh bien tout simplement une politique acquiert une consistance, j'allais dire presque une substance, qui n'est plus tout à fait la même et qui est spécifique à chaque localité. Ce qui évidemment pose tous les problèmes que nous avons à poser lorsque nous ouvrons cette boîte de Pandore ou cette boîte noire du local, c'est que nous sommes confrontés immédiatement à cette inextricable complexité des situations locales. J'aurais tendance à dire que ça donne tout son sens à la parole que je viens d'entendre tout à l'heure, émanant d'une institution publique nationale, le CGET. Il n'y a pas de modèle unique. Mais dire qu'il n'y a pas de modèle unique, ça n'est pas démissionner. C'est au contraire missionner, si je puis dire. C'est au contraire se donner les possibilités d'agir. Un géographe dans mon genre dirait très facilement qu'en matière de politique locale scolaire, chaque localité crée sa propre consistance. Chaque localité définit le tour de table des parties prenantes, qui sera toujours un peu le même, mais toujours assez différent. Tenez, la question de l'implication des habitants. Ça peut prendre des formes très différentes selon les localités, selon aussi, j'allais dire, les histoires locales d'implication. Les Francas le savent bien, il y a des lieux où il y a une historicité de cela. Et puis il y a des lieux où on part de rien, ne serait-ce que par exemple des lieux périurbains où l'histoire associative n'est pas celle qui peut exister, tenez, dans un espace comme celui-ci où l'on sent ce socialisme municipal ou ce municipalisme avec tout ce qu'il a apporté aussi de travail avec les réseaux d'éducation populaire pendant des décennies, voire plus de 50 ans. Ça conditionne peut-être aussi parfois la capacité qu'on a à définir cette implication habitante, pas seulement comme l'implication des conseils de quartier. Parce qu'on n'en a pas terminé avec l'implication habitante lorsqu'on a mobilisé les conseils. Parce que finalement, la question qui se pose, c'est comment, idéalement, chaque habitant doit-il ou non être considéré comme une partie prenante en tant qu'il est parents d'élèves, notamment. Et c'est quand même une vraie question, qui est une vraie question politique, au sens très très fort du terme. Vous savez, le CGET le sait bien, la jeunesse et les sports, vous le savez aussi, que un certain nombre de personnes sont très critiques par rapport au système de démocratie participative à la française. Les estimant, pour certains, de façon assez sévère, les estimant trop formelles. Pas assez réel, pas assez lié à une implication concrète des individus dans l'action. Donc, chaque localité définit son système d'acteurs, le registre d'intervention de ces acteurs, définit peut-être aussi le registre du leadership. Ça, c'est une vraie question. J'aurais presque envie de poursuivre le débat, mais on ne va pas y passer la nuit, parce que c'est un vrai débat. Vous dites que sans... si je vous entends bien, mais si je vous ai mal entendu, corrigez-moi tout de suite, que sans l'implication municipale de la collectivité territoriale, il n'y a pas de leadership possible. Alors, sans doute est-ce vrai, mais du coup, ça pose une question. C'est-à-dire, y aurait-il des conditions pour qu'un leadership non contestable émerge, leadership au sens des spécialistes de sciences politiques, qui ne soit pas un leadership municipal. C'est-à-dire, on pourrait presque inverser la question, c'est-à-dire, y a-t-il en France possibilité pour une action qui s'inscrit dans un cadre de politique publique, mais dont le leadership ne soit pas assuré par un opérateur classique des politiques publiques ? Ce qui est une vraie question qui travaille aussi les pays voisins et qui est une question que dans le domaine qui est le mien, le domaine des politiques d'urbanisme, par exemple, qui se pose aujourd'hui très clairement à tous les acteurs des politiques urbaines. Et on commence aujourd'hui à répondre non à cette question. Enfin, à répondre oui, enfin, ça dépend comment on pose la question. À répondre oui, il peut y avoir un leadership qui ne soit pas assuré par un acteur des politiques publiques. Il y a aujourd'hui un nombre extrêmement important, et je pense que c'est un domaine où il faudrait qu'on aille creuser, nous, autour du scolaire. Il y a un nombre extrêmement important de structures, souvent des associations, maintenant aussi des coopératives, qui interviennent par exemple sur des friches urbaines et qui mènent sur ces friches urbaines des actions d'accueil de populations fragiles, les gens qui font de la politique de la ville les connaissent souvent d'ailleurs, des actions de développement culturel, des actions de développement d'aide à la scolarité, évidemment accompagnées par les pouvoirs publics, mais un accompagnement qui n'est pas forcément un accompagnement originaire, qui est parfois un accompagnement de rattrapage. Donc c'est pour moi une vraie question de fond, hein, que cette question du leadership, et puis chaque localité peut aussi, à la limite, définir sa taille, son ordre de grandeur. Et le débat sur l'intercommunalité, la question est vraiment une très bonne question. Avec la loi NOTRe, j'ai pu observer, là, en tant que président du Conseil supérieur des programmes, je suis invité dans beaucoup d'académies en ce moment pour expliquer les nouveaux programmes par les recteurs. Et chaque fois que j'y suis, je demande aux recteurs, aux inspecteurs, aux DASEN, et alors les intercos, comment ça se passe, le schéma de l'intercommunalité? Et vous faites comment avec ces intercommunalités? Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui sort? C'est fascinant. C'est fascinant parce qu'il n'y a pas deux cas pareils. Il n'y a pas deux, même à l'intérieur des départements, il n'y a pas deux cas pareils. Donc finalement, on pourrait très bien reconnaître que chaque localité définit son ordre de grandeur. Dans un cas, c'est intercommunal. Dans d'autres cas, ça peut être communal. Si on était joueur, on pourrait même dire que ça pourrait être infracommunal. Hein, c'est-à-dire qu'à la limite, ça dépend. J'imagine qu'à Paris, ce n'est pas tout à fait la même situation qu'à Bergerac. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Bergerac. Hein, donc, voilà, donc d'habitude, je dis Vierzon, mais j'en ai marre de martyriser la région centre, donc j'ai essayé de changer de région. Donc, il y a vraiment quelque chose de tout à fait intéressant dans cette idée qu'il n'y a pas de modèle unique. Que finalement, notre travail, c'est peut-être de faire en sorte que les conditions s'organisent pour qu'une localité devienne consistante en matière de politique scolaire. Je ne sais pas si je suis clair. Hein. C'est peut-être ça notre travail à tous. Hein. Je veux dire notre travail à la fois de concepteur et d'accompagnateur de ces politiques. Bien sûr qu'il faut être prescriptif, notamment quand on est opérateur d'État. Mais être suffisamment souple dans la prescription pour pouvoir en même temps faciliter l'émergence d'une localité pertinente et consistante. C'est pas facile, hein, mais c'est un peu le travail que nous avons à faire. Donc nous sommes partis du POLOC, je te rassure Yves, j'y viens. Nous sommes partis il y a 5 ans avec l'idée qu'il fallait donner de la substance à la réflexion sur cette question de la localisation des politiques territoriales. Ma petite digression, c'est pour vous montrer que finalement, on peut essayer de réfléchir la politique locale en utilisant y compris des outils conceptuels qui sont forgés pour d'autres domaines de réflexion. Là, c'est le domaine qui est le mien de la géographie des politiques d'urbanisme, quoi, en fait. Mais nous avons, depuis 5 ans, bien travaillé, pas toujours dans des conditions faciles. Nous avons réussi à nous rapprocher du ministère de la réussite éducative lorsqu'il existait, et de l'accès à l'époque lorsque le CGET n'existait pas, pour donner une orientation réussite éducative qui nous paraissait opportune. Bon, c'était un peu tactique aussi. Mais c'était pour nous, il fait intéressant, parce que cette notion de réussite éducative, curieusement, elle n'apparaissait pas au début du POLOC. Très, très curieusement. C'est quelque chose qui était relativement discret. Au début du POLOC, on s'intéressait plutôt au montage institutionnel, hein, la façon dont on gouvernait ces choses-là. Et puis, l'irruption de la réussite éducative nous a permis peut-être de donner un peu plus de contenu qualitatif à notre approche. Puis sont arrivées les nouvelles lois, la loi refondation de l'école de la République, les lois territoriales, et on s'est aperçu que, plus que jamais, cette problématique de la territorialisation des politiques scolaires prenait de l'importance pour les collectivités locales et tous les acteurs du système éducatif. Qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils l'apprécient ou pas, cette importance devenait de plus en plus grande. Et surtout, on s'est aperçu qu'à travers les PEDT et leur généralisation, on était amené à observer un nombre de phénomènes bien plus importants et bien plus variés que les seuls phénomènes de gouvernance et même de réussite éducative. Qu'en fait, à travers ça, c'était l'ensemble du dispositif éducatif qui pouvait être en quelque sorte déplié, reproblématisé, repolitisé
et observer en tant que tel. Ça nous a donc beaucoup fait réfléchir, et là l'arrivée d'Yves au Pollock a été tout à fait décisive, parce que Yves y a amené aussi son dynamisme et son expertise, et j'allais dire son expérience d'élu. Ça nous a poussé à faire évoluer encore notre réflexion sur le Pollock, et arriver à un moment où notre but, puisque nous devons renouveler nos conventions avec l'État et avec un certain nombre d'opérateurs d'État, ça c'est la petite partie politique de mon propos, n'est-ce pas ? Nous devons renouveler les conventions, donc nous allons y travailler, et nous espérons bien que ce renouvellement sera couronné de succès. Voilà, fin de la séquence tactique politique. Donc nous avons réfléchi à ce que pourrait être le Pollock dans les 4 ou 5 prochaines années. Et parce que nous avons le sentiment que, quelles que soient les échéances électorales, cette problématique de la territorialisation continuera de faire sens. Il ne se passe pratiquement pas une journée sans que nous ne soyons saisis de quelque chose qui renvoie à cette thématique-là. Eh bien, nous voulons donc faire en sorte que le Pollock puisse avoir 3 registres d'intervention. Celui d'abord de l'expertise appuyée sur la recherche, mais d'une expertise de large spectre. Nous allons renforcer le lien avec l'Institut d'études politiques et avec le laboratoire Triangle de sciences politiques, mais aussi avec d'autres laboratoires du site de Lyon, pour pouvoir avoir une expertise scientifique large, qui nous permettent de ne pas couvrir seulement les sciences politiques, mais aussi la sociologie des politiques publiques, pourquoi pas d'autres disciplines. L'anthropologie peut intervenir pour observer un certain nombre de situations, la géographie a des choses à dire, l'économie a sans doute aussi des choses à apporter, etc., etc. Donc une expertise au service des acteurs, appuyée sur ce que la recherche nous permet d'avoir comme instrument d'analyse des situations que nous avons à analyser. La deuxième mission, le deuxième registre pour le Pollock, c'est le registre de l'accompagnement des acteurs, de l'accompagnement en particulier des collectivités, mais pas seulement. Nous voulons vraiment nous situer dans une logique d'accompagnement. Quand je dis dans une logique d'accompagnement, ça n'est pas pour dire nous allons vous expliquer ce qu'il faut faire. Non, c'est le contraire. C'est plutôt, compte tenu de ce que nous savons, nous allons réfléchir collectivement aux conditions qui nous paraissent nécessaires pour qu'un certain nombre de choses adviennent et qu'en particulier le local prenne la consistance qu'il peut prendre. Donc vraiment une démarche d'accompagnement. Ce n'est pas vendre du produit fini, c'est plutôt proposer une dynamique collective permettant au bout du compte d'avoir une réunion satisfaisante des parties prenantes. Et puis le troisième registre que nous voudrions privilégier, c'est celui de la diffusion et de la formation. D'où notre souhait d'organiser ces journées-là auxquelles vous avez assisté, parce qu'il nous semble qu'il y a un besoin de formation extrêmement important. Nous ne sommes pas les seuls à pouvoir apporter des formations sur ces questions-là, mais nous pensons que nous avons un rôle à jouer. Et là aussi, formation dans une perspective notamment de formation tout au long de la vie. Et nous placerons là aussi dans un rapprochement avec l'Institut d'études politiques de Lyon qui voudrait aussi nous aider dans le développement de ces formations, parce qu'il y a en particulier un master de politique publique à l'IEP au sein duquel on peut trouver des ressources pour mettre en place ces actions de formation. Il y a peut-être un quatrième registre qui est en train d'émerger, c'est pour ça que je le mets un peu à part, hein, mais je vous le soumets pour votre gouverne et pour que vous puissiez réfléchir. Et là aussi, c'est lié à notre rapprochement avec l'IEP de Lyon et avec son directeur, Renaud Père. C'est le registre qui consisterait aussi à faire en sorte que nous puissions être un fournisseur d'évaluation des politiques publiques. Voilà, que nous puissions rentrer dans le jeu de l'évaluation des politiques publiques. Et pour moi, c'est un peu différent de l'expertise, et c'est différent aussi de l'accompagnement, parce que l'évaluation des politiques publiques, c'est vraiment une activité très particulière, qui mérite de ne pas être mélangée avec l'expertise et avec l'accompagnement, et qui est une activité qui peut prendre des formes très diverses, hein, et en particulier qui peut prendre des formes assez expérimentales. L'IEP de Lyon met en place des systèmes d'évaluation des politiques publiques qui n'ont rien à voir avec simplement un auditeur qui vient regarder ça et qui produit un rapport, mais qui sont plutôt des évaluations à partir de plateformes d'expérimentation tout à fait intéressantes. Mais ça mérite que nous travaillions encore un peu pour rendre plus précis ce que nous voudrions pouvoir vous proposer. Donc vous voyez que nous avons plein de projets pour le POLOC, que ces deux journées n'étaient absolument pas des journées conclusives, mais plutôt des journées d'ouverture d'une nouvelle phase pour ce pôle. Et je profite de cette possibilité qui m'est faite de m'exprimer pour remercier toutes les équipes de l'IFE qui ont permis au POLOC de fonctionner depuis 5 ans, d'organiser cette journée, Yves bien sûr, mais également toutes les personnes que vous avez vues pendant ces deux jours, et puis bien sûr de remercier tous les partenaires du POLOC, vers lesquels nous allons nous retourner pour envisager avec eux la poursuite de notre expérience. Et puis vous remercier, vous, d'avoir pris du temps pour assister à tout ou partie de ces deux journées. Merci beaucoup.